Bienvenue à nos deux intervenants que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui. Et donc, on va tout de suite commencer avec Jean-Paul Angélibert qui va nous parler d'éco-poétique et d'éco-critique. Donc, sur un format d'à peu près 40 minutes, de façon à ce qu'on ait un petit peu de temps ensuite pour avoir un temps d'échange de questions, de remarques et de commentaires entre nous. Voilà, merci.
Merci Hélène, merci de cette invitation qui me fait honneur. Je suis très heureux d'être ici pour cette intervention. Et donc, comme je suis comparatiste, je ne vais pas parler que de textes anglais et américains, mais je vais essayer de situer mon propos dans une ère transatlantique entre France et États-Unis. Et je donnerai, vu mes faibles capacités linguistiques, mes exemples en français. Je suis désolé. Alors, j'ai intitulé cette intervention « Naissance d'un imaginaire écologique, une écolittérature au XXIe siècle ?» en faisant l'hypothèse de la naissance au XXIe siècle avec l'évidence du dérèglement climatique et de l'extinction massive des espèces sauvages d'un imaginaire écologique dont les « extinction studies » seraient l'expression savante et philosophique et à côté des études universitaires, l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une écolittérature, donc des œuvres, fictionnelles ou non, qui cherchent à inventer des formes littéraires pour rendre compte des milieux vivants. Les milieux, c'est-à-dire les forêts, les mers, les fleuves, etc., dans cette perspective, ne sont pas inertes. Ce sont des agents composés d'innombrables agents, et le défi de cette écolittérature serait de rendre compte des relations complexes qui les constituent et de celles qui se nouent entre eux et les humains. Alors, ce défi, il a été formulé il y a quelques années par le romancier et critique d'origine indienne Amitav Ghosh dans un livre qui a eu beaucoup de succès, The Great Derangement, en 2016. Défi de représenter le non-humain, c'est-à-dire de le traduire. Et dans ce paradigme de la traduction, je vais m'appuyer essentiellement sur trois textes aujourd'hui, trois textes qui s'apparentent au conte philosophique et relèvent donc d'une forme particulière de science-fiction. Et je parlerai de textes de Bruno Latour, Donna Haraway et Vinciane Després. Et puisque ce sont des textes qui entretiennent un rapport plus ou moins étroit avec l'œuvre d'Ursula Le Guin, je remonterai aussi à la nouvelle de celle-ci, The Author of the Acacia Seeds, dont le conte de Després en particulier est une réécriture. Donc, je vais essayer de caractériser cette écolittérature en partant du contexte commun à toutes ces œuvres, un contexte qui est, comme on le sait tous, celui de la pression du réchauffement climatique, de la dévastation des écosystèmes et de l'extinction massive des espèces animales. Tout cela mêlé qui produit un sentiment nouveau de perte, une désappropriation du monde, ce monde que nous nous étions approprié avec la révolution industrielle et le naturalisme et qui se transforme à très grande vitesse sous nos yeux. Et je renvoie pour comprendre ce sentiment de désappropriation à un article récent de Baptiste Morisot dans la revue Critique, le numéro qui s'intitule « Vivre dans un monde abîmé » de janvier-février 2019, où Baptiste Morisot, philosophe, émet l'hypothèse d'une perte de monde qui serait due aux métamorphoses extrêmement rapides du monde contemporain. Je le cite, « Le foyer dans sa constance, son immuabilité, son cycle d'habitude prévisible se métamorphose parce que le climat qui préside à toutes les dynamiques écologiques est perturbé. » Bon, l'hypothèse est facile à suivre. Le climat surplombant un ensemble de déterminations des écosystèmes, changeant les dynamiques écologiques se transforment et nous ne reconnaissons plus le monde dans lequel nous vivons. Et nous ne le reconnaissons plus pour une série de causes qui s'enchaînent. Alors, en ce sens-là, où le monde dans lequel nous avons toujours vécu nous échappe, ou fuit sous nos yeux, nous sommes tous des exilés, nous sommes tous installés en terre étrangère, même quand nous vivons toujours au même endroit, même quand apparemment rien ne change, et c'est carrément le monde qui se dérobe sous nos pieds, et ce qui fait, constitue finalement une condition plus étrange que l'exil, puisque l'exilé vit en étranger au milieu de gens qui sont chez eux, au sein d'un monde où être chez soi a encore un sens, alors que justement dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est la notion de chez soi qui perd son sens. C'est le chez soi qui devient impossible à retrouver ou impossible à conserver, puisqu'il disparaît toujours plus. Alors on connaît la conclusion que Bruno Latour, dans ses derniers livres, en tire. Bruno Latour conclut que nous n'avons pas d'autre choix que de devenir terrestre, c'est un adjectif qu'il emploie, en nous donnant à la fois un sol et un monde. C'est la métaphore centrale de son livre « Où atterrir ?». Un sol qui nous relie à la matérialité, l'hétérogénéité, l'épaisseur, la poussière, l'humus, et un monde, je le cite, « tissé des formes d'existence qui interdisent de se limiter à une localité, de se tenir à l'intérieur de quelques frontières que ce soit. » C'est-à-dire à la fois se donner un ancrage local, ce qu'il appelle un sol, et une planétarité, ne pas limiter par réflexe localiste ce local à un petit monde refermé sur ses frontières, mais au contraire l'ouvrir à l'entièreté de la planète, puisque aucune frontière ne tient. Il s'agit donc de refaire monde. Refaire monde, quand le monde disparaît, ça suppose deux choses. Ça suppose cultiver des attachements particuliers au territoire où l'on vit et en même temps envisager ce territoire dans ses liens multiples et complexes avec le tout. Donc, double défi qui donc peut être relevé par des œuvres littéraires et je vais vous soumettre cette idée aujourd'hui, en particulier des œuvres littéraires qui adoptent une forme qu'on pourrait croire enterrée, une forme qu'on pourrait penser morte, et même depuis longtemps. Je pense à la forme du conte philosophique, une forme qu'on dit obsolète depuis le 18e siècle, dépassée depuis le romantisme, mais qui me semble faire retour aujourd'hui, et me semble que ce retour est tout à fait significatif et intéressant, parce qu'il me semble que ça dit quelque chose de notre époque. Alors précisément, le corpus que je vais étudier aujourd'hui contient trois textes courts, donc écrits ou coécrits par des philosophes, et conçus pour les deux premiers comme des fictions brèves, et pour le dernier comme un spectacle théâtral. Alors, le premier, ce sont les histoires de Camille, les enfants du compost de Donna Haraway. Le second, autobiographie d'un poule pour la communauté des Ulysses de Vinciane Després. Et le troisième, la trilogie terrestre de Frédéric Haït Toiti et Bruno Latour. Ces trois textes sont très récents, exactement contemporains. Ils sont dus à des auteurs qui se connaissent, qui se lisent et se commentent les uns les autres. D'ailleurs, la fiction de Vinciane Després se donne explicitement comme un prolongement de celle de Haraway. Et toutes les deux sont issues d'ateliers organisés lors d'un colloque de Cerisy auquel les deux autrices ont participé et que Bruno Latour avait rejoint, au colloque de Cerisy de 2013, auquel tous les trois ont donc participé. Donc il y a un contexte extrêmement étroit, hein, tous ces textes participent de la même conjoncture. Alors je vais essayer de caractériser celle-ci. Je vais essayer de me demander d'abord en quoi consiste pour ces penseurs le moment historique de l'extinction et j'essaierai de montrer que ce moment se laisse décrire comme celui d'un certain retour au mythe. Non que le mythe retrouve dans nos sociétés le statut qu'il pouvait avoir dans les sociétés animistes, mais au sens où certains motifs mythiques, comme la métamorphose, l'hybridation, où le surgissement de forces étranges et inassignables reviennent avec l'Anthropocène. Donc l'Anthropocène comme moment du retour du mythe, je vais essayer de me demander pourquoi. Dans un deuxième temps, on verra que le conte philosophique, parce qu'il relève d'une forme particulière de science-fiction, répond à ce retour du mythe. Il s'agit d'une réplique rationnelle à ce retour du mythe. Et enfin, j'essaierai de dégager les moyens littéraires que ces textes se donnent afin de proposer une éthique pour ce monde troublé. Ce monde in the trouble, comme dit Arrow. Alors, pour commencer avec le temps du mythe, il faut bien admettre que nous avons du mal à nommer la période dans laquelle nous vivons et qu'on désigne souvent par le mot d'anthropocène. Anthropocène est un mot qui a été proposé en 2000, qui s'est répandu, qu'on n'a jamais cessé de critiquer et pour lequel on a, depuis une vingtaine d'années, proposé quantité d'alternatives et des alternatives qui veulent mieux rendre compte des causes historiques du désastre écologique. Vous trouverez par exemple une série de substituts au mot d'anthropocène dans le livre de Jean-Baptiste Fresseau, L'événement anthropocène, qui consacre plusieurs chapitres à proposer quantité d'autres mots, plantationocène, thanatocène, polémocène, etc., pour mettre en évidence des causes précises au réchauffement climatique, des causes beaucoup plus précises qu'anthropos, qui est un mot beaucoup trop vague et imprécis, qui désigne l'humanité tout entière, alors qu'on sait bien que l'humanité tout entière n'est pas également responsable du réchauffement climatique. Et un des substituts qui ont plus de succès en ce moment est Capitalocène, qui commence à se répandre. Donc cette difficulté à nommer ce qui nous arrive est sans doute un signe parmi d'autres, mais un signe important, de l'importance du trouble provoqué par cette nouvelle ère. Trouble qui vient de ce que les expériences les plus communes et les mieux enracinées, comme le retour cyclique des saisons, sont profondément affectées et ne se reconnaissent plus. Nous voyons se produire des phénomènes étranges, des phénomènes devant lesquels nous ne savons pas comment réagir. Tempêtes inhabituelles, méga-feux, sécheresses prolongées, soleil d'août en octobre, etc. Le romancier et critique Amitav Ghosh, que j'annonçais tout à l'heure, relève le caractère d'inquiétante étrangeté des phénomènes climatiques contemporains que nous percevons encore comme des phénomènes naturels, tout en sachant qu'ils sont provoqués par les activités humaines. En ce sens, écrit Ghosh, les événements mis en mouvement par le réchauffement climatique ont une connexion plus intime aux êtres humains que les phénomènes météorologiques du passé, parce que nous en sommes responsables dans une certaine mesure, plus ou moins grande. Ils sont l'œuvre mystérieuse façonnée de nos propres mains et revenue nous hanter sous des formes et des figures impensables. Ghosh compare ce retour du connu sous des formes nouvelles, étranges et impensables, au fantôme de la littérature fantastique. Et l'étrangement familier revenu nous hanter. On ne reconnaît plus la nature parce qu'elle est peuplée de nos propres créatures. Inversement, on ne reconnaît plus celle-ci, devenue autre qu'elle-même, pour nous hanter. C'est exactement un événement fantastique que nous vivons. Alors cette comparaison est plus intéressante qu'on serait tenté de le croire. Elle signale un aspect important de notre époque, qui est le retour de l'irrationnel au sein de sociétés qui croyaient l'avoir définitivement chassé. Alors, dans un article très stimulant, Baptiste Morisot, encore lui, et Nastassia Martin, un autre article de Baptiste Morisot que je cite, cette fois-ci écrit en collaboration avec l'anthropologue Nastassia Martin, donc, ils proposent tous les deux, pour le décrire, l'expression de retour du temps du mythe. Et c'est cette expression, vous avez compris, qui m'intéresse. Le mythe, vous le savez, dans les cosmologies animistes, ou le temps du mythe plutôt, dans les cosmologies animistes, désigne un temps d'avant le temps, un temps dans lequel les êtres qui sont aujourd'hui distincts ne le sont pas encore. C'est un moment où les formes de vie ne sont pas encore séparées, les animaux ne sont pas distincts des humains, le sol solide sur lequel déployer des formes de vie spécifiques n'existe pas encore, le temps du mythe est un temps métamorphique, c'est un temps protéiforme, c'est un temps où des choses apparaissent et disparaissent, c'est un temps où des êtres ne sont pas encore fixés dans les déterminations qu'on leur connaît aujourd'hui. Donc ce temps du mythe, il présente cette similitude troublante avec notre conjoncture. Aujourd'hui non plus, on ne sait plus très bien distinguer les formes de vie. Un symptôme parmi d'autres est que nous hésitons sur le statut des êtres vivants et sur les relations que nous pouvons ou devons avoir avec eux. C'est une des caractéristiques du temps du mythe chez les peuples animistes. Je cite Morisot et Martin. D'un point de vue conceptuel, on ne dispose pas de statut précis à donner aux êtres de la nature, et surtout, les relations qu'on entretient avec eux ne sont pas encore stabilisées. On ne sait pas encore quelles relations entretenir avec eux. C'est un peu ce qui nous arrive avec les phénomènes météorologiques et climatiques, avec les espèces vivantes qui en sont affectées, et avec lesquelles nous ne savons plus quelles sont nos véritables relations. C'est ce qui arrive aussi du fait des changements techniques que nous introduisons dans nos manières de vivre et par lesquelles, parfois, nous ne savons plus très bien, nous ne maîtrisons plus très bien les limites de nos propres corps. Nous nous interrogeons sur les relations mêmes que nous entretenons avec nos corps. Donc, nous revenons d'une certaine manière au temps du mythe. L'idée que nous nous faisons des êtres vivants déstabilise les rapports que nous entretenons avec eux. Alors, dans les termes de Morisot et Martin, je les cite, il y a un peu partout, par exemple dans les textes des chercheurs, des arbres qui se mettent à communiquer entre eux. Vous connaissez un peu les travaux de Francis Allais et d'autres biologistes, ou si vous avez lu le très très beau roman de Richard Powers, Behavior Story, vous savez comment les arbres communiquent entre eux par l'intermédiaire des champignons. Il y a des forêts qui se mettent à penser, des champignons qui deviennent partenaires, des communautés bactériennes qui deviennent des alliés symbiotiques, des virus pensés comme des espèces compagnes, et des fleuves qui deviennent des personnes de droit. Il y a toute une série de non-humains qui commencent à faire des choses qu'ils n'étaient pas censés faire. Leurs statuts ne sont plus stabilisés suivant les normes épistémologiques, juridiques, ontologiques et politiques de la modernité. Donc les êtres du monde ne sont plus ceux que nous croyons et nous ne savons pas encore très bien ce qu'ils sont. Et nous ne sommes pas pour autant devenus animistes. Et les sciences contemporaines, comme le droit et la politique, dépendent encore de l'ontologie naturaliste occidentale, pour reprendre les termes de Scola. Mais cette ontologie naturaliste ne rend pas pour autant compte de manière satisfaisante des phénomènes que l'anthropocène fait émerger. Les êtres sortent des catégories et on ne sait plus comment se comporter avec eux. D'où le besoin de nouveaux récits qui rendent intelligibles les métamorphoses du temps. Alors sans doute, et c'était déjà l'intuition de Gauche, les formes de la littérature moderne ne permettent-elles pas de penser notre conjoncture? La forme narrative aujourd'hui dominante, le roman réaliste, centré sur l'individu et son intériorité, offre assez peu de ressources pour traiter les phénomènes anthropocéniques et leurs échelles de temps et d'espace incommensurables avec une vie humaine. C'est tout le défi justement de Powers dans un roman comme The Other Story, où il s'agit de rendre compte de l'existence des forêts à une échelle de temps qui dépasse la vie humaine par un facteur supérieur à 10 ou à 100. Donc il s'agit d'arriver à raconter une histoire qui concerne des êtres humains, mais qui se situe à une échelle de temps très largement supérieure à celle d'une vie humaine. Et de la même façon qu'il s'agit de raconter une histoire qui se situe à une échelle géographique bien supérieure à l'échelle d'une vie humaine, au territoire que peut occuper un être humain à un moment de son existence. Donc ça, c'est un exercice difficile pour le roman. Et pour citer un autre critique que Gauche, je vais m'appuyer sur Jean-Christophe Cavallin, critique français, professeur à l'université d'Aix-Marseille, qui a écrit un très très beau livre qui s'intitule « Vallée noire » aux éditions Corti dans la collection Biophilia, qui est un livre absolument magnifique. Je vous recommande sur ce sujet. Cavallin en appelle à reconsidérer le mythe, lui aussi. Si, écrit Cavallin, le mythe produit par la raison ressemble ironiquement au monde rêvé par l'animisme, si ce qu'imaginait sa raison symbolique est devenu le cauchemar de notre réalité, alors peut-être faudra-t-il appliquer au mal moderne son ancienne médecine et employer le récit comme il fut employé d'abord, dans le contexte rituel, à l'apprivoisement du monde et à la concordance des hommes et des lieux. Une proposition un petit peu complexe. Il s'agirait non pas de retrouver la forme du mythe, la forme narrative du mythe, mais de renouer avec la fonction du mythe dans les sociétés primitives, c'est-à-dire produire des récits qui permettent de se lier au monde, qui permettent de se lier aux êtres qui le peuplent, plutôt que des récits qui représentent le monde et représentent les êtres qui le peuplent. Se lier aux êtres du monde en donnant sens à la relation que nous entretenons avec eux, plutôt que les représenter, c'est-à-dire nous mettre à distance d'eux et les regarder depuis cette distance souveraine. Produire des récits qui nous donnent non la maîtrise d'un monde que nous voulons contrôler, mais un récit qui nous mette en relation horizontale avec ce monde et qui donne sens à cette relation. Donc le propos de Cavalin ne porte pas sur les genres littéraires, mais sur ce qu'il suppose être un lien originel entre le mythe et le rite, entre le récit et des formes de vie, entre des récits et des formes de relations avec le monde et tous les êtres qui l'habitent. C'est ce qu'il appelle une écologie du récit. Et ça, c'est le cœur du propos de Valet-Noir, son livre. Cette écologie du récit supposerait ce qu'il appelle une raison rituelle, une raison qui rende au récit les pouvoirs de l'émotion, pour simplifier un tout petit peu, crainte et pitié, pouvoir de l'émotion par lesquels les récits se saisissent des vies et requalifient le monde en nous permettant d'entrer en relation avec lui. Le récit, retrouvant par là ses pouvoirs perdus sous la modernité, des pouvoirs anciens, il a sans doute fallu 300 ans de modernité pour perdre, reconquérerait sa capacité à donner statut aux êtres du monde et à nous aider à régler nos relations avec eux. Et c'est là que s'arrête Cavalin. Quels sont ces récits qui renoueraient avec leur fonction originelle de nous lier au monde? Cavalin ne le dit pas. Après avoir fait cette très belle proposition d'en appeler à des récits qui nous relieraient au monde, non pas en le mettant à distance par la connaissance et le symbole, mais en mettant sur un plan horizontal avec lui, eh bien, il ne donne aucun exemple. C'est assez frappant d'ailleurs. Ce sont des récits, dit Cavalin, qui devraient conjuguer les pouvoirs que nous opposons aujourd'hui en associant empathie et distance, projection imaginative et connaissance rationnelle, extrapolation et exploration. Mais il n'en donne aucun exemple. Alors, par contre, s'il ne donne pas d'exemple, il cite, plus que tout autre auteur, une romancière qui est Ursula Le Guin. Et donc je vais repartir de là. C'est évidemment l'autrice que cite aussi abondamment Donna Haraway et Vinciane Desprez. Alors vous savez, Ursula Le Guin est non seulement reconnue comme une grande romancière de science-fiction, mais elle a revendiqué cette étiquette et je vais poser que les textes que nous étudions ici, malgré certaines apparences, relèvent de la science-fiction. Alors dans quelle mesure? A priori, le conte philosophique se situe un petit peu loin des clichés de la science-fiction. En fait, les trois contes philosophiques qui m'intéressent constituent une forme de fiction scientifique. Ce sont des extrapolations à partir de données scientifiques, données qu'ils contribuent à faire connaître hors des milieux spécialisés et données qu'ils lient à des questions d'ordre philosophique en les intégrant à une fiction. Alors on pourrait objecter à cette identification des trois textes au conte philosophique, le fait que la trilogie terrestre de Latour s'apparente au genre de l'essai, ce qui est vrai. Ce livre rassemble les textes de trois spectacles conçus par Frédéric Haït-Touati et Bruno Latour. Textes des trois spectacles, augmentés d'illustrations qui ont été utilisées pendant les représentations et de deux entretiens accordés par les deux auteurs. Alors, les textes sont des monologues qui rapportent des hypothèses scientifiques. Par exemple, la notion de Gaïa, développée par Lovelock et Margulis, ou le concept géologique plus récent de zone critique, et ces textes développent donc la portée philosophique de ces notions. Il n'y a pratiquement pas de fiction dans ces textes, sauf très brièvement dans le troisième volet de la trilogie, mais je passe. Alors, s'il n'y a pas de fiction dans ces textes, il y a tout de même une mise en intrigue de la science, il y a un récit de la conceptualisation savante qui est propre à susciter un certain émerveillement. Le discours sollicite l'imagination en déployant les concepts en représentation, en images, en figures. Comme dit Frédéric Haït-Poitty, co-auteur de ces pièces avec Bruno Latour, la description des choses et de leur puissance d'agir est tout sauf ennuyeuse. Et cet émerveillement suscité par la science a, je pense, quelque chose à voir avec le sense of wonder revendiqué par la science-fiction et dont on a fait vraiment une caractéristique. Le lien avec la science-fiction est sans doute plus direct et plus simple, plus affirmé dans la nouvelle de Vinciane Després, au moyen de marqueurs textuels et d'allusions intertextuelles transparentes. Alors, en effet, Autobiographie d'un poulpe est un récit à la première personne, dans lequel une scientifique fictive présente et rapporte une correspondance faisant état de recherche dans une discipline, la thérolinguistique, dont vous avez entendu parler si vous avez lu Ursula Le Guin. La thérolinguistique, on le comprend vite, est la discipline savante qui se penche sur les langues et littératures des espèces sauvages, qu'elles soient animales ou végétales. Dès l'incipit, on apprend que l'association de thérolinguistique classique a été sollicitée pour traduire des fragments de textes d'une écriture inconnue et que, rapidement, ces fragments ont été identifiés comme les écrits d'un poulpe. Alors, il suffit de ces quelques lignes pour situer le récit dans un futur indéterminé, ce futur où cette discipline existe et a fait des progrès remarquables. Une science fictive inscrite dans une intrigue située dans le futur, cela suffirait à ranger le récit dans la science-fiction. Mais une série d'indices intertextuels s'y ajoutent. D'abord, le lecteur peut savoir que la thérolinguistique a été inventée par Ursula Le Guin dans la nouvelle très souvent commentée dont je parlais tout à l'heure, The Offer of the Acacia Seeds. Et ensuite et surtout, l'enquête de l'athérolinguiste narratrice de ce récit a lieu au sein d'une communauté du compost directement issue des histoires de Camille de Donna Haraway. Alors, pour en venir à cette dernière, les histoires de Camille sont le dernier chapitre de l'édition française de Vivre avec le trouble, le livre traduit et augmenté par rapport à l'édition américaine Staying with the Trouble. Chapitre ajouté notamment à l'issue du travail de Haraway avec Vinciane Després lors du colloque de Cerisy dont je parlais tout à l'heure. Alors, ces histoires de Camille, elles aussi, sont situées dans le futur. Elles revendiquent une inspiration science-fictionnelle. L'introduction du livre, donc, qui existe aussi dans la version américaine, joue avec les initiales SF, parfois inversées en français, mais toujours SF dans cet ordre, en anglais, qui permettent d'allier science-fiction, fabulation spéculative, féminisme spéculatif, mais aussi faits scientifiques, en anglais string figures, et en anglais encore so far, tout ça étant bien sûr provisoire. Toutes ces catégories s'appliquent aux histoires de Camille, qui est une utopie, qui spécule sur l'alliance de communautés humaines et d'espèces animales. Les enfants du compost. Enfants ainsi nommés parce que le terreau de la vie se recompose à partir des déchets de notre monde. Le compost fait ici allégorie d'une recomposition à la fois civilisationnelle, écologique et subjective. Cette utopie est appuyée sur de nombreux faits scientifiques. Il y a de très copieuses notes de bas de page, empruntées en général à la biologie, à l'anthropologie, mais pas seulement. Et cette utopie conduit l'histoire des enfants du compost de 2025 à 2425, date à laquelle ces communautés ont contribué à rendre l'existence des humains supportable pour les autres espèces. Le futur de 2425 ne ressemble pas du tout à notre présent. Mais je passe parce que ce serait beaucoup trop long de raconter ça. Et un des outils pour rendre le poids de l'espèce humaine supportable pour la planète, hormis la réduction des naissances, un des motifs du livre, c'est « Make kin, not babies ». Il faut 3 parents pour faire un enfant, ni plus ni moins. Ce qui a permis en 2425 de réduire à moins de 2 milliards la population humaine sur la planète. L'autre motif, c'est de favoriser des symbioses entre enfants humains et animaux. Et ces symbioses sont des alliances qui rendent les premiers, les enfants humains, particulièrement conscients des devoirs qu'ils ont envers les seconds. Alors, l'inscription de ces contes philosophiques dans une filiation science-fictionnelle nous intéresse parce que la science-fiction ne se définit pas par des thèmes, des sujets ou des motifs obligés, non plus que par une situation d'intrigue dans le futur, mais par la distanciation et la rationalité, si je reprends la définition classique de Darko Suvin, qui identifie la science-fiction à un genre littéraire distancié, méta-empirique et non réaliste, tout en n'étant pas métaphysique, et qui conduit à une démarche cognitive et dialectique. La définition est un petit peu compliquée. Dans le vocabulaire de Suvin que je vais traduire, le refus de la métaphysique allié à la démarche cognitive distingue la science-fiction du merveilleux, du fantastique et du mythe. Dans le mythe, le monde physique est déterminé d'une façon magique ou religieuse. Dans la science-fiction, il est ordonné à la connaissance et à la connaissance rationnelle. C'est l'idée fondamentale de l'autonomie du monde physique, à l'instar de toute instance extérieure, transcendante en particulier. Donc, au temps du retour au mythe, la science-fiction, si on la comprend ainsi, nous fournit une ressource majeure. Elle n'est pas limitée au monde empirique de l'auteur. Elle fabule facilement les êtres de la métamorphose. Elle peut raconter les histoires étranges de ce qui émerge, de ce qui n'a pas de statut, de ce avec quoi nos relations ne sont pas stabilisées. Elle permet peut-être, et elle le fait de manière rationnelle, elle permet peut-être, pour reprendre les termes de Cavalin que je citais tout à l'heure, moins de représenter ces êtres étranges que de se lier à eux pour les connaître sans les mettre à distance. Et pour autant, elle ne rêve pas le monde comme l'animisme, mais elle relie les transformations mystérieuses de l'anthropocène au temps historique et aux enquêtes rationnelles des sciences expérimentales. Bref, ce serait la réplique rationnelle au retour du temps du mythe. En tant que littérature de la distanciation et de la connaissance, elle offre un terrain de spéculation rationnelle à la philosophie pour construire ce plan horizontal qui nous relierait aux êtres émergents que nous voyons se métamorphoser sous nos yeux. Alors là, ce qui est un levier d'action aussi. Dans la série des significations de l'acronyme SF, Donna Haraway comprend, je le disais tout à l'heure, speculative fabulation, fabulation spéculative, et au sens où spéculatif veut dire activation d'impossible. C'est ça la spéculation pour Haraway. C'est un sens qui a été développé dans la philosophie de langue française par Isabelle Stengers. Il y a un beau volume collectif qui s'intitule « Gestes spéculatifs » qui publie un autre colloque de Cerisy à peine postérieur à celui dont je parlais tout à l'heure. Pour ces deux philosophes, spéculation veut dire « activation d'impossible », c'est-à-dire engagement envers impossible qu'il s'agit de rendre perceptible dans le présent en le déployant. Quelque chose de possible se rend visible dans le présent si on s'engage auprès de lui. Spéculer, en ce sens, c'est considérer que tout présent est chargé de virtualités, dont certaines seulement s'actualiseront, et c'est répondre à l'insistance d'impossible pour agir au mieux. Il s'agit de se rendre attentif à la question de ce qui est ici, de ce qui est émergent ici. Il s'agit de savoir faire attention à tout ce qui émerge et qui demande un engagement pour être soutenu. C'est ce que fait justement cette science-fiction en s'engageant. Je cite Émilie H. dans une réflexion sur la science-fiction féministe, Émilie H. est une philosophe qui cite, elle aussi, plus que tout autre auteur, Ursula Le Guin, dont la présence là est partout. La SF féministe, cette fiction spéculative, comme elle se définit elle-même, a utilisé l'incroyable inventivité des sciences à des fins émancipatrices pour se sauver si besoin est, pour imaginer des rapports responsables avec nos sciences et nos techniques, pour inventer des modes de régénération de nos milieux, etc. Elle cultive, autrement dit, un rapport critique et créatif, non inféodé aux propositions scientifiques qui nous sont faites, leur reconnaissant toute l'importance qui est la leur, mais refusant de considérer que l'inventivité se situe exclusivement de leur côté. C'est ce même rapport créatif et indiscipliné dont nous avons besoin vis-à-vis de la notion d'anthropocène. Alors cet art, c'est bien ce à quoi s'essaient les contes philosophiques de Donna Haraway, Vinciane Després, Bruno Latour et Frédéric Petit, et c'est pourquoi je pose que ce sont des textes qui relèvent fondamentalement de la science-fiction. Donc, un type de fiction attentif au présent, présent qu'il pense en développant un possible sur le mode du « et si ?» Et si, point de suspension. Que se passerait-il, par exemple, si des communautés du compost se développaient pour prendre soin des espèces en voie d'extinction? En quoi le développement d'une science comme la terro-linguistique transformerait-il nos rapports avec les poulpes? Et si nous opposions une cosmologie terrestre à la cosmologie martienne, dans les termes de Latour, Mars, que Latour voit comme une planète morte, hein, qui nous fascine par opposition à la seule planète vivante que nous connaissions, qui est la Terre. Il s'agit pour les trois auteurs de refaire monde en partant du monde abîmé qui est le nôtre, explorer des possibles pour expérimenter fictivement de nouveaux attachements. Alors, sur le plan esthétique, et ce sera mon troisième et dernier point, ces trois textes partagent un même refus du réalisme et de ses procédés narratifs et dramaturgiques. Il s'agit de trouver de nouvelles façons de raconter des histoires, parce que pour toutes ces autrices, les êtres qui peuplent le monde ne sont pas seulement des êtres humains. Alors au théâtre, le spectacle de Haït Poitier et Latour renonce à la fiction au profit de formes qui s'expérimentent, conférences-performances, que les deux auteurs appellent parfois conférences-spectacles ou essais scéniques. Il n'y a ni action à proprement parler, ni personnage incarné par des acteurs, mais un texte qui ressortit plus à l'essai, qui est dit par un récitant accompagné par une bande musicale et des images fixées et animées. Et dans le dernier volet, le dispositif est plus complexe, plus participatif, le public partage le plateau avec les performeurs et le spectacle est haptique, hein, plus éloigné encore de la dramaturgie traditionnelle que les deux premiers. Et donc pour les deux textes narratifs, Histoire de Camille et Autobiographie d'un poulpe.
Histoire de Camille et Autobiographie d'un poulpe ne recourent pas aux procédés les plus fréquents de la narration réaliste. Personnages individualisés, espaces particularisés, temps de l'expérience ordinaire, etc. Dans les histoires de Camille, ainsi, Camille n'acquiert jamais de personnalité individuelle. Le texte ne livre ni psychologie, ni description physique, ni histoire intime. L'intériorité de Camille n'est jamais questionnée. Le fait que le récit, de plus, couvre l'existence d'une communauté sur cinq générations, représentée par cinq personnages nommés Camille 1, 2, 3, 4 et 5, montre à lui seul que l'individualité n'en est pas le sujet. Les contours de la communauté elle-même sont peu précisés. Ni le nombre exact de ses membres, ni la teneur de leur vie quotidienne ne sont donnés. Le traitement du temps n'est pas non plus celui du roman réaliste. L'action ne donne lieu à aucune scène, ce qu'on appelle en narratologie une scène, où le temps de l'action représentée correspond conventionnellement au temps de l'action telle qu'elle a pu être effectuée. Le régime temporel est celui, toujours dans les termes de Genève, du sommaire, ce qui permet au récit d'embrasser la vie de la communauté, de 2025 à 2425, comme je le disais tout à l'heure, en une cinquantaine de pages seulement. L'espace n'est pas plus concret. Si le lieu où la communauté s'installe est situé grâce à des toponymes réels, il n'est jamais décrit. On ne sait rien de la topographie de l'utopie, ni des constructions réalisées par cette petite société, ni de sa manière de les habiter. Si le conte est utopique par son sujet, la description d'une société radicalement différente, conduisant le lecteur à se détacher des évidences de son propre monde social, ici aussi, comme pour la définition de la science-fiction tout à l'heure, je reprends la définition de l'utopie par Darpo-Suvin. Si le conte est utopique par son sujet, donc, il ne conduit pas à la description d'une société saisie dans son fonctionnement concret, comme l'utopie narrative classique, mais il reste centré sur l'actualisation d'un possible, l'engagement envers un possible, comme on définissait la spéculation tout à l'heure avec Donna Haraway. Il reste centré donc sur l'actualisation d'un possible, qui est ici l'hybridation d'enfants avec des espèces menacées d'extinction, afin de rendre sensible la communauté de destin des humains et des autres animaux, et d'engager ainsi les enfants à prendre soin des animaux en danger. Engagement, donc, du texte auprès de l'engagement de ces enfants du futur pour et avec les animaux. La fiction conduit de la naissance de Camille 1, le premier enfant Sim ou symbiote, qui porte des gènes de papillon monarque, à l'année 2425, donc dans 400 ans, quand, je cite, 3 milliards d'êtres humains vivent sur Terre, dont 1 milliard de symbiotes humains-bestioles. Au terme de cette histoire, la politique de réduction des naissances et d'hybridation portée par les communautés a abouti à produire de nouveaux liens entre les espèces sur une Terre certes abîmée par l'Anthropocène, mais encore habitable. Je cite, en 2425, plus de 50% des bestioles que l'on recensait en 2015 ont disparu. Des milliers d'espèces de bestioles sont SIM avec les humains. Les gènes des animaux SIM demeurent inaltérés par les gènes humains. Les êtres humains SIM acquièrent toujours plus de propriétés des animaux dont ils sont les partenaires. De nombreux êtres humains sont SIM d'animaux disparus. Fin de citation. Voilà les conséquences des choix éthiques des communautés du compost exprimées par des chiffres et des proportions. Il est question, dans cette utopie, de sauver non des individus mais des espèces et de mesurer les résultats des gestes spéculatifs des premières communautés à la plus grande échelle qui soit, bien sûr celle de la Terre tout entière. Exemple donc de récit spéculatif et d'utopie chez Donna Haraway. Si je passe maintenant à l'autobiographie d'un poulpe, ce récit ressemble plus par sa forme à une nouvelle de science-fiction. Nouvelle composée d'un récit cadre, signé Christina Vantin, chargée de recherche et membre de l'association de terreau linguistique, de 6 emails suivant encadrés par ce récit que j'ai appelé récit cadre, 6 emails envoyés par Christina Vantin, ce personnage de chargée de recherche, à une autre chercheuse, Sarah Buono, elle aussi membre de cette association, courriel envoyé entre le 13 août et le 25 novembre d'une année indéterminée. Nous avons donc là un effet de réel lié aux dates de ces envois, mais le moment exact auquel ça se passe, le siècle auquel ça se passe, n'est pas précisé. Et ces courriels sont suivis de la traduction d'un texte d'un poulpe, la fameuse autobiographie qui donne son titre à l'ensemble. Le dispositif narratif, on le voit, diffère profondément de celui des histoires de Camille. Il s'agit d'une fiction épistolaire avec deux narratrices diégétiques, un empan temporel très limité, quelques semaines, des personnages individualisés dotés de noms vraisemblables, autant de procédés du réalisme utilisé ici et que Donna Haraway ignorait. Ce réalisme, il est démenti néanmoins par l'intertexte développé avec le conte de Donna Haraway. La communauté auprès de laquelle la chercheuse se rend pour enquêter sur les poulpes est une communauté du compost. Et les quelques informations données à son sujet renvoient bien à cette fiction qu'on a commentée il y a un instant. La source du texte est déjà donc une histoire et une histoire fictive. Et comme dans cette première histoire, l'utopie demeure abstraite, le récit donnant trop peu d'éléments concrets au lecteur pour qu'il puisse se figurer cette petite société. Les personnages restent très peu nombreux, leur intériorité n'est pas beaucoup plus explorée que dans les histoires de Camille. Et la fiction d'enquête scientifique permet de concentrer l'intérêt sur les efforts de l'haltérolinguiste pour interpréter les écrits du poulpe. Interprétation à laquelle elle n'arrive qu'avec l'aide de la communauté, dont les 6 enfants qui sont associés génétiquement au poulpe. C'est d'ailleurs de ces enfants que la chercheuse apprend que les poulpes ont disparu de la région longtemps avant son arrivée. Comme les enfants de la 5e génération de Camille, les Sims possèdent ici, dans cette nouvelle, des gènes d'animaux disparus pour porter leur mémoire et apprendre d'eux afin de préparer leur éventuel retour. Je cite l'un de ces enfants qui parle à la chercheuse. Nous prenons soin de la mer et des poissons. Nous essayons de faire revenir la vie. Si ce n'est pas déjà trop tard pour le peuple des poulpes, quel que soit l'endroit du monde où ils vivent. Ce refus du réalisme dans le récit correspond au choix du genre distancié qu'est la science-fiction. Il correspond aussi au choix de fiction didactique explicitement engagé. On a vu que les 3 contes transmettent des savoirs positifs. Notes de bas de page, schémas, figures et résumés d'articles scientifiques y abondent, et ils sont articulés à une position qui est évidemment une position éthique. La tour et Aït-Touati redéfinissent la Terre tout entière. Haraway file l'histoire de la planète sur plusieurs siècles. Després se concentre sur les rapports d'une chercheuse avec une communauté pendant quelques mois. Mais les 3 concluent à la même exigence éthique. Il faut conclure de nouvelles alliances avec les espèces animales et végétales pour prendre soin du milieu que nous partageons, milieu façonné par les êtres vivants et dont ces mêmes êtres vivants dépendent. Ce que la tour appelle la zone critique. Ce qu'on peut résumer par cette formule, c'est l'exigence que posent ces 3 œuvres. Il faut que ces alliances incluent les espèces éteintes pour conférer une présence continue, je cite ici Donna Haraway. Il faut que ces alliances incluent les espèces éteintes pour conférer une présence continue au moyen d'une mémoire active, aux manières de vivre perdues et insuffler du courage aux autres engagements symbiotiques et sympoïétiques. Cette position éthique est explicite dans les 3 contes. La trilogie terrestre se termine sur une injonction. Et c'est ce que je mime depuis quelques minutes avec mes phrases qui commencent par il faut. La trilogie terrestre se termine par cette injonction, adressée directement au public. Je cite: Le vivant produit et rend possible l'espace et non l'inverse. Il n'occupe pas l'espace, il l'agrandit, il le produit. Il faut plonger, se mélanger, s'entremettre, se compromettre avec toutes ces foules. Et on retrouve ce il faut que j'anticipais tout à l'heure. Il faut plonger, se mélanger, s'entremettre, se compromettre avec toutes ces foules. Engagement, donc, la conférence performance de Latour et Aït-Touati enjoint son public de suivre. Engagement qui est aussi celui de l'autobiographie d'un poulpe, où le personnage de Sarah Buono s'engage auprès de la communauté où elle a mené son enquête, pour participer à son entreprise de réintroduction des poulpes dans l'habitat qu'ils avaient déserté. Et chez Haraway, Camille V devient une voix des morts, c'est-à-dire une personne qui consacre sa vie à rappeler l'existence des espèces éteintes pour, dans les termes de Haraway, renforcer la guérison de la Terre, guérison qui est en pleine accélération au XXVe siècle. Si on voulait résumer en termes philosophiques la position éthique commune à ces fictions, on pourrait renvoyer à ce que le philosophe australien Tom Van Doren appelle un pluralisme situé, qu'il définit ainsi une attention au milieu vivant qui impose de considérer, dans chaque situation particulière, chaque écosystème local, comme à l'échelle de la Terre tout entière, tous les points de vue humains et non humains à égalité, et de favoriser les négociations entre tous ces êtres vivants qui doivent cohabiter. Je cite Tom van Doren, « Le pluralisme situé nous impose d'endosser la tâche partagée qui consiste à écouter, à porter assistance, à expérimenter ensemble, aux innombrables points de rencontre des êtres vivants pour proposer des possibilités de cohabitation. » Ce sur quoi je vais conclure, ces trois contes entretiennent des rapports étroits entre eux, leurs auteurs se connaissent, ils ont travaillé ensemble, ces trois contes ont été écrits dans la même conjoncture et ils répondent aux mêmes soucis. L'Anthropocène affecte la Terre et les êtres vivants qui la peuplent, elle les transforme, elle les rend parfois méconnaissables, au point que nous vivons un nouveau temps du mythe, un temps de la métamorphose et de l'indistinction où les concepts les plus assurés vacillent. À ces incertitudes, ces trois contes répondent par une forme de science-fiction, une pensée rationnelle, philosophique, qui conjoint par le récit savoir et engagement éthique. Dans des types de récits différents, conférence-performance, fable utopique, nouvelle, ils apportent une réponse commune, une même éthique du pluralisme, sous des expressions diverses, les traversent tous. Mais l'intérêt de ces récits, à mon sens, réside certainement moins dans la teneur de leurs leçons de philosophie morale que dans le fait qu'ils aboutissent tous les trois à une chose identique qui est une leçon, identique par sa nature, en deçà d'être identique par son contenu. Ce sont des fictions philosophiques, c'est-à-dire aussi des fictions didactiques, en même temps qu'elles sont des fictions, qu'on a dit spéculatives, c'est-à-dire engagées tout à l'heure. C'est sans doute là l'expression d'une nécessité de notre temps du mythe, qui est un temps troublé. Vivre avec le trouble, pour reprendre encore une fois l'expression de Haraway, conduit à la fois à un besoin de savoir et à un besoin d'engagement. Vivre avec le trouble, vivre dans ce temps troublé, incite à un savoir engagé. Le conte philosophique peut être redevenu, comme au siècle des Lumières, une forme adaptée à une conjoncture incertaine, dangereuse, qui nous place devant des choix cruciaux, aux conséquences peu prévisibles. Peut-être le conte philosophique représente-t-il une voie aujourd'hui pour une écologie du récit, rendant à celui-ci ses pouvoirs de susciter crainte et pitié, et ainsi de contribuer à symboliser nos relations avec les êtres multiples d'un monde qui, certainement à juste titre, nous effraie. Je vous remercie.
Merci encore Jean-Paul pour votre. Et puis donc, on...